are listening to SBS.
For a brief moment in 1985, far-flung Norfolk Island became the centre of a real-life international spy thriller. Four French agents sail there after bombing the Rainbow Warrior in Auckland Harbour, killing a man. Australia takes them into custody and then lets them go. Why? I'm Richard Baker, and in Fallout, Spies on Norfolk Island, I go from Paris to the Pacific to get the real story. Listen now on the SBS audio app or wherever you get your podcasts.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
22 août 1962. Dans la nuit, une petite Citroën noire circule à vive allure. À son bord, le président de la République, le général de Gaulle, et sa famille. Soudain, des hommes surgissent et ouvrent le feu sur le cortège présidentiel. La voiture est criblée de balles, mais le couple est indemne. Le président a bien failli y laisser la vie. C'est l'attentat du petit Clamart. La France se réveille sous le choc, dans un pays où la menace des attentats est déjà omniprésente.
Comment des hommes en viennent-ils à l'idée de tuer le chef de l'État ?
Pour en comprendre le mobile, il faut revenir un peu en arrière. Nous sommes dans une France bousculée, en proie à un climat de guerre permanent. L'émeute algéroise du 13 mai 1958 a mis le pays au bord de la guerre civile et provoqué l'effondrement de la 4e.
Et plus particulièrement, vers cette chaumière, voix d'homme qui incarne la France, l'attend depuis plus de 10 ans.
Le général de Gaulle, perçu comme le dernier espoir des partisans de l'Algérie française, est rappelé au pouvoir, porté par le soulèvement de l'armée et des Français d'Algérie. Dès son retour, il doit donc gérer en priorité une situation explosive en Algérie.
Je considère comme nécessaire que ce recours à l'autodétermination soit proclamé aujourd'hui.
Tout démarre le 16 septembre 1959. Rapidement, le général comprend que la situation coloniale ne peut plus durer et parle alors de, je cite, « le droit des Algériens à l'autodétermination ». Et ça, ça ne plaît pas à tout le monde. Quelques mois plus tard, les manifestations nationalistes de la semaine des barricades éclatent. En 1961, le putsch des généraux en Algérie échoue, les négociations d'Évian s'ouvrent avec le GPRA pour tenter de mettre fin à la guerre. Ces accords, signés le 18 mars, actent un cessez-le-feu immédiat et préparent l'indépendance de l'Algérie. Mais sur le terrain, la violence ne faiblit pas. 8 jours seulement après la signature, à Alger, l'armée tire sur une foule de pieds noirs qui manifestent. Les rapatriés affluent vers la métropole dans la précipitation et le chaos. Les harkis et d'autres musulmans francophiles sont massacrés et les bombes continuent d'exploser. La guerre déborde jusqu'en métropole. Les extrémistes français, regroupés sous la bannière de l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, multiplient les attentats aveugles contre des civils pour signifier à l'État son refus de l'indépendance. C'est un mouvement proche de l'extrême droite aux multiples visages, mais avec un seul objectif, maintenir l'Algérie française, et une cible prioritaire, le général de Gaulle. Oui, car pour eux, de Gaulle a trahi. Il a trahi la France en acceptant de céder l'Algérie aux nationalistes algériens, impardonnable à leurs yeux. Le 5 juillet 1962, après 132 ans de colonisation française, l'Algérie obtient enfin son indépendance.
The peace has just begun. Peace and
in- secrète contre le chef d'État se prépare. Le 22 août 1962, à l'arrière de la voiture, sont assis le général de Gaulle et son épouse Yvonne. À l'avant, son gendre Alain Boissieux et le chauffeur présidentiel. Il quitte l'Élysée pour rejoindre sa résidence de Colombey-les-Deux-Églises. Le général avait déjà survécu à une attaque un an plus tôt. Pour des raisons de sécurité, il est décidé de rejoindre Colombey en hélicoptère. C'est alors direction la base aérienne qu'il se rende. L'itinéraire choisi par les services de sécurité était tenu secret, mais quelqu'un a informé le chef du commando. À sa tête, Jean-Bastien Thiry, un homme de 35 ans, marié et père de 3 enfants, polytechnicien, ingénieur, lieutenant-colonel et officier de l'armée de l'air, est dévoué à l'Algérie française. Un homme brillant, personne ne l'imagine capable d'un tel acte. Et pourtant, il aurait déjà mené l'attaque de Pont-sur-Seine un an auparavant. Cette fois, ce sera sa 7e tentative en un mois. le couple présidentiel circule dans une Citroën DS noire surnommée la DS, roulant à 110 km/h sur l'avenue de la Libération. La DS, c'était la révolution automobile française.
Volant souple à une seule branche, suspension inédite, un ensemble de solutions originales.
Un véhicule d'apparat avec lequel de Gaulle, fidèle à Citroën, sillonne la France, prend ses bains de foule et se rend même avec à l'étranger. 20h10, rond-point du Petit Clamart, un homme agite un journal. C'est le signal. Un commando de 12 hommes ouvre le feu sur la voiture présidentielle. Il vise d'abord les pneus, mais la voiture tient la route. Le chauffeur, très habile, garde le contrôle de la DS et accélère. La célèbre suspension hydropneumatique de la voiture montre alors toute son efficacité. Mais une seconde voiture, une Citroën ID19 bleue, les prend en chasse. Puis le fusil mitrailleur vise à hauteur des têtes. Alain de Boissieu racontera au micro d'Europe 1.
Et là, je me suis dit, on est foutu parce qu'ils vont nous avoir. Et je me retourne, le général et la femme étaient toujours assis normalement. Et là, j'ai hurlé, père, je vous prie, baissez-vous.
Pour la seconde fois.
Il dit, là, j'ai dû hurler tellement fort que, effectivement, il s'est baissé. Et au moment où il s'est baissé, il y a une balle qui a traversé la vitre à l'endroit où était la tête de De Gaulle. Et ça, c'est vrai que ça l'a sauvé.
En se redressant, De Gaulle aurait lâché, c'était tangent. L'opération est un échec pour les assaillants. Personne n'est tué. Presque 200 balles ont été tirées, une dizaine seulement ont touché la voiture. Les témoins racontent qu'ils visaient dans tous les sens, avec une précision plutôt approximative. Aussitôt, une chasse à l'homme est lancée. Les regards se tournent naturellement vers l'OAS. Et puis, un coup de chance, un contrôle policier de routine met les enquêteurs sur la piste. En moins de 2 semaines, plus de 9 personnes sont interpellées. Le procès s'ouvre en janvier devant un tribunal d'exception, la Cour militaire de justice. Un procès tumultueux, le verdict tombe. La plupart des accusés sont condamnés à la prison à vie. 3 sont condamnés à mort, mais le général de Gaulle gracie les tireurs, sauf un, Jean-Bastien Thiry. Pour justifier son geste, il tente de développer sa théorie du tyrannicide. Les juges ne sont pas convaincus. Le 11 mars 1963, il devient le dernier fusillé de l'histoire de France. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'attentat du Petit Clamart est préparé en marge de l'OAS. Criblé de balles mais toujours debout, ce moment a scellé la légende de la Citroën DS19. Un fiasco pour ses auteurs, mais un événement qui va profondément marquer la Ve République et, indirectement, changer la Constitution française.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.